Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Bien, la dernière fois, nous avons vu ce qui concernait la divinité de Jésus. Et dans le prolongement de cette première étude, nous allons entreprendre une deuxième sur la naissance virginale. La naissance virginale implique deux choses. D'abord, que l'existence de Jésus ne commence pas à Bethléem, mais qu'il y a une préexistence de Jésus à cause justement de son caractère divin. Or, une des caractéristiques de Dieu, c'est l'éternité. Ça veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est donc indispensable, si Jésus est Dieu, qu'il n'ait pas eu un commencement. Ça veut dire que son existence ne commence pas avec sa naissance, avec son incarnation. Et ça veut dire qu'avant sa naissance à Bethléem, Jésus existait, mais il existait sous une autre forme. Il existait, comme le dit l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile, sous la forme de la parole éternelle et préexistante qui était auprès de Dieu. La parole, c'est ça, un moyen de communication par lequel l'homme fait connaître sa pensée. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dira de Jésus, c'est l'auteur qui l'Épître aux Hébreux, c'est peut-être l'apôtre Paul, on n'est pas sûr absolument, Hébreux 1, verset 3, qu'il est l'empreinte de sa personne. Il est la parole de Dieu car il révèle Dieu. Et non seulement il révèle Dieu, il apporte le message de Dieu, mais il est lui-même le message de Dieu. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Jean peut dire « la parole a été faite chair ». Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er et versets 1 à 2, l'auteur écrit ceci, après avoir parlé autrefois à différentes reprises et de différentes manières, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Et c'est dans ce sens-là qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que, en dehors de Jésus-Christ, il est extrêmement difficile à l'homme pécheur d'entrer en communication avec Dieu. Et ici, le Fils de Dieu, la parole éternelle qui existait sous forme incorporelle, n'est-ce pas, a choisi volontairement de venir dans les limitations qui sont celles des hommes pour accomplir l'œuvre du salut. Mais auparavant, le Christ existait, mais encore une fois, sous une forme incorporelle. Et son incarnation va impliquer un mode d'existence différent. Mais pourtant, c'est une transformation de son existence, mais pas une modification de cette dernière. Le deuxième élément, quand nous parlons de naissance virginale, c'est que la naissance de Jésus aura lieu sans l'intervention d'un père humain, ça veut dire en dehors des lois de la nature. Par un miracle de Dieu qui apparaît comme étant semblable à l'acte de création primitif, dira l'apôtre Paul, qui n'hésitera pas à faire un parallèle entre Jésus et Adam. Jésus deviendra, dans la théologie paulinienne, le second Adam. Maintenant, est-ce que cette doctrine n'était pas annoncée dans l'Ancien Testament? Si. Elle était annoncée et en même temps elle était entrevue. Annoncée d'abord dans des textes comme le fameux texte d'Ésaïe 8 sur lequel nous avons déjà l'occasion de nous arrêter, et notamment cette expression. On l'appellera, vous savez, un enfant nous est né, un fils nous est donné, vous connaissez le texte, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et après le christianisme, quand il y a eu le divorce entre l'Église et la synagogue, ce verset a fait problème pour les juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a ce texte est corrompu dans les traductions juives. C'est la première version du rabbinat, par exemple, n'est-ce pas? Les juifs ne traduisent pas cette expression par Père éternel, parce que cette expression est tellement claire qu'alors qu'il faudrait reconnaître la préexistence du Messie. Ce que le judaïsme, à cause du christianisme, se refuse à faire. Deuxième texte, qui lui aussi est tout aussi clair que le précédent, c'est le fameux texte de Michée 5, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas la moindre ville de Juda, car de toi sortira celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. » Donc, c'est clairement affirmé, ici, le caractère éternel de la préexistence du Messie, bien sûr. Ce texte fait aussi problème pour les Juifs, et ils ont essayé de dire, n'est-ce pas, que le mot « olam », éternité, n'a pas toujours la valeur d'éternité, ce qui, à la limite, est vrai dans certains textes bibliques, et dans certains textes, il peut effectivement signifier un temps très long. Remarquez, c'est jamais que reculer pour mieux sauter dans le cas qui nous occupe. Mais n'importe comment, le mot « olam », d'une manière générale, signifie l'éternité. Et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il n'a pas cette valeur dans la Bible. Alors pourquoi, soudain, ici, dans ce texte-là, lui refuser la valeur d'éternité? Maintenant, le judaïsme, qui a, disons, précédé le christianisme, avant le christianisme, n'avait pas ce genre de complexe vis-à-vis de ces textes-là. Et l'idée de la préexistence du Messie se trouve dans le judaïsme de cette période-là, exprimée à partir de ces différents textes, et puis aussi entrevue, si j'ose dire, sous l'image d'un personnage qui va devenir dans le judaïsme le prototype du Messie. D'ailleurs, non seulement dans le judaïsme, on trouve ça aussi dans le Nouveau Testament, notamment l'Épître aux Hébreux, Melchizedek. Melchizedek, l'exégèse juive, vous savez, qui s'arrête au moindre détail, y compris sur ce que le texte ne dit pas, avait remarqué que Melchizedek est un des rares personnages bibliques dont la généalogie ne nous est pas donnée. C'est pratiquement le seul cas que nous trouvions dans la Bible d'un personnage dont il ne nous est pas dit de qui il était le fils. Parce que toujours, n'est-ce pas, un tel fils d'un tel. Il faut le présenter, il faut le situer. Il faut le situer dans le temps, dans l'histoire. Or, Melchizedek, et il nous est dit simplement de lui, il est roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Point. Nous ne savons rien d'autre de lui, d'où il vient, quels sont ses descendants, et quelle est sa fin. Par contre, il y a dans le psaume 110 un texte curieux, nous connaissons bien, où il nous est dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce texte est repris par Jésus lui-même, on le trouve par exemple cité dans Matthieu 23, versets 41 et 42, où Jésus interroge ses adversaires en disant « Que dites-vous du Messie? De qui est-il le Fils ?» Et répond « De David. » Et Jésus répond « Eh bien, s'il en est ainsi, comment David, inspiré par l'Esprit-Saint, l'appelle-t-il mon Seigneur ?» C'est donc qu'il est plus grand que lui, le Messie. Et s'il est plus grand que lui, il ne peut pas être son fils. Et cette exégèse du psaume 110 que fait Jésus place ses interlocuteurs dans un grand embarras. Cet embarras, les docteurs de l'époque l'avaient déjà connu, même sans l'intervention de Jésus, parce qu'effectivement, ils s'étaient demandé quel était ce personnage auquel s'adressait David en l'appelant mon Seigneur et auquel il disait « Tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Et la réponse que l'on donnait notamment dans les cercles apocalyptiques, on voit ça dans la littérature de Qumran, c'était « C'est le Messie. » Le personnage qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, c'est le Messie. Alors, qui est Melchizedek? Une figure messianique. La réponse n'est pas très claire, parce que, finalement, on ne sait pas, et dans le Nouveau Testament non plus, mais une figure messianique à n'en pas douter. Et comme le dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est sans commencement ni fin, à l'image du Fils de Dieu. Donc s'il est ni sans commencement ni fin, il est de nature divine. Melchizedek est un personnage quasi divin dans la tradition juive pré-exilique à cause justement de cette éternité, de cette préexistence qui lui est attribuée. Mais dans un certain nombre de textes de cette période-là, certains sont encore allés plus loin. Et ils ont affirmé que Melchizedek avait connu une naissance aussi miraculeuse. Et c'est ainsi que sa mère, la mère de Melchizedek, d'après la tradition légendaire, la Haggadah, comme on dit, était la femme de Nir. Et Nir était, d'après certaines traditions de cette période-là, le père de Noé. Et cette femme aurait été enceinte, d'après ce Midrash, d'une manière miraculeuse. Et quand Melchizedek est né, l'ange Michaël l'a pris pour le mettre dans l'Éden, afin qu'il soit miraculeusement préservé pendant la période du déluge. Et c'est pourquoi il est dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui a engendré Melchizedek, dit cette tradition-là. Et voyez-vous, là, il y a un parallèle avec l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est pourquoi il est dit de Melchizedek, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », parole que Jésus reprendra à son compte, quand il sera devant le Sanhédrin, qui dira, bien vous, je vous le dis, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du trône de la puissance de Dieu, de la majesté de Dieu. Pour ça aussi, par exemple, dans le livre de Daniel, chapitre 7, avec le mystérieux Fils de l'homme qui s'avance sur l'ancien des jours et qui aussi s'assoit sur le trône pour exercer le jugement. Et d'après certains textes de Qumran, Melchizedek est le Messie sacerdotal. Vous savez, la tradition de Qumran attendait en fin de compte trois Messies. On a eu l'occasion de parler de ça. Il y avait le Messie royal, fils de David. Il y avait le prophète des derniers jours, Messie prophétique en quelque sorte. Et puis il y avait le Messie sacerdotal, le Messie prêtre, qui lui était justement Melchizedek lui-même, d'après certains textes de Qumran. Et l'Épître aux Hébreux reprend cela en disant bien, ces trois messies qui étaient attendus, en fait, c'était un seul. Jésus lui-même a à la fois les caractères du messie royal, il est le fils de David, il a les caractéristiques du prophète des derniers jours, parce qu'il a été loin du Saint-Esprit, et il était réellement un prophète puissant en parole et en œuvre devant Dieu, devant les hommes, comme diront les deux disciples qui allaient à Emmaüs, et enfin, il était prêtre, sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Donc, voyez-vous, cette doctrine, quoi qu'en dise aujourd'hui le judaïsme, est loin d'être contraire à l'enseignement du Nouveau Testament, et en même temps, loin d'être contraire à ce que même les Juifs de l'époque de Jésus avaient compris de ces textes-là. Et ce n'est que par la suite, après la destruction du Temple, par réaction antichrétienne, que l'on a nié dans le judaïsme, jusqu'à ce jour, le caractère divin du Messie. Alors ça, c'est ce qui concerne la préexistence du Messie. Maintenant, venons-en à la naissance virginale elle-même. Donc, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu lui-même engendre le Messie. Il le fait venir dans le monde d'une manière tout à fait miraculeuse. Ce que Paul résume dans le fameux texte des Galates, chapitre 4, verset 4, par ces paroles, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né dans le monde, né d'une femme, né sous la loi. » Alors ici, Dieu envoya son Fils dans le monde, ça veut dire qu'auparavant, son Fils existait, mais pas dans le monde. Et la naissance virginale, ou l'incarnation, c'est le passage, encore une fois, d'un mode d'existence à un autre, hors du monde, de toute éternité, et ensuite dans le monde et dans le temps, quand les temps ont été accomplis à une date précise. Et puis, il y a un autre texte qui est tout à fait intéressant. Il y en a d'autres textes qu'on pourrait aussi envisager, enfin bon, c'est pas la peine de s'y arrêter tellement qui allait dans le même sens, peu importe. Mais il y a un autre texte qui est tout à fait intéressant, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 3 et 4, où, qui est un petit peu une déclaration christologique de l'apôtre Paul. Donc cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils. Né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, cette affirmation est très intéressante, parce qu'elle situe bien justement les limites de ce qu'est l'incarnation. L'évangile, la bonne nouvelle, concerne Jésus, le Fils de Dieu, qui, selon la chair, est de la lignée de David. Et ce n'est pas sans raison que l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc donnent la généalogie de Jésus. Jésus vient dans le temps, à un certain moment précis de l'histoire, selon la chair, il vient dans la lignée d'Israël, sous la loi, comme dira l'apôtre Paul, pour être le serviteur de la circoncision. Dans la lignée de David, et il naît d'une femme. Mais, il est établi fils de Dieu avec puissance, par l'Esprit de sainteté, et la preuve en est donnée par sa résurrection d'entre les morts. Nous avons là ici le texte fondamental sur l'incarnation. Maintenant, évidemment, il y a aussi, alors là, le chef-d'œuvre, on peut dire, le joyau que sont les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc, ce que l'on appelle les évangiles de l'enfance. Et notamment, il y a l'annonce faite à Marie par l'ange, qu'on trouve au verset 26 jusqu'au verset 38 du premier chapitre de l'évangile de Luc, dont on peut dire qu'il est le sommet de la christologie de Luc en particulier. On pourrait peut-être prendre, si vous voulez, étudier rapidement ces versets, parce que je crois qu'ils sont très importants. Sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme, la maison de Joseph, la maison de David. Donc, de la lignée de David, selon la chair. Et là, Luc rejoint tout à fait Paul dans le texte des Romains que nous avons lu tout à l'heure. Le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et voyez-vous, dans ce texte de Luc, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a comme ce qu'on appelle en musique des harmoniques. C'est-à-dire, il y a la note principale, et puis quand on sait bien écouter, derrière la note principale, on discerne d'autres notes. Si vous voulez, il faut faire de l'évangile de l'enfance une lecture à plusieurs niveaux, comme on dit. Bon, le Seigneur est avec toi, ça peut être une salutation, je ne dirais pas banale, c'est pas banal de dire une chose pareille, surtout quand c'est un ange qui le dit. Mais ça peut être une manière d'exprimer une bénédiction particulière de Dieu. Et là, dans ce texte, tout est autant suggéré que dit. Plus loin, verset 35, Luc dira, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et l'ombre du Très-Haut te couvrira, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Seigneur est avec toi, c'est une manière de dire à Marie que, eh bien, en quelque sorte, cette présence du Seigneur qui vient sur elle va produire cette conception miraculeuse dont va naître justement le Messie annoncé et promis. Ensuite est rappelé, nous l'avons évoqué, la filiation davidique. Et puis, ensuite, tout aussi, je dirais ici, est charismatique, parce que la salutation de l'ange, déjà, renvoie à la joie, aussi la joie du Saint-Esprit, l'Esprit de puissance. Or, l'Esprit de puissance, c'est celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, dit l'apôtre Paul dans le texte des Romains que nous avons lu tout à l'heure. Et ici, le Saint-Esprit va avoir deux rôles. Il est celui qui va permettre le miracle de la naissance virginale et il est celui qui va ressusciter Jésus d'entre les morts. Et ces deux actions de l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul, fondent la réalité, proclament la réalité que Jésus est le Fils de Dieu. Le proclame, dit-il, avec puissance. D'autre part, dans le texte de Luc, nous n'avons pas le temps d'en faire une étude trop approfondie, il y a des réminiscences constantes à l'Écriture. Tout ce qui s'accomplit, s'accomplit conformément aux Écritures. Et Luc n'est pas juif, mais on sent qu'il est, il est chez lui, dans la maison d'Israël, il n'y a pas de problème. Il en a l'esprit. Et notamment, il va interpréter l'Écriture comme on le fait dans le judaïsme par ce qu'on appelle le midrash, c'est-à-dire l'actualisation du texte de la Bible. Alors, il dit à Marie, verset 32, « Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Là, il faudrait comparer justement cette annonce faite à Marie, puis l'annonce qui est faite à Zacharie concernant la naissance de Jean-Baptiste. Et il y a presque les mêmes termes qui sont donnés à Zacharie. il sera grand et il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Seulement ici, il sera grand devant le Seigneur. Cette grandeur de Jean-Baptiste est une grandeur relative. Tandis qu'ici, il nous est dit tout simplement, il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. La grandeur de Jésus est absolue. Jésus est infiniment plus grand que ne l'est Jean-Baptiste. Or, l'expression « il est grand » c'est une expression qu'on applique à Dieu dans le judaïsme. Vous pouvez reprendre les psaumes. Tu es grand, tu es très digne de louange, etc. La grandeur appartient à Dieu et à Dieu seul. Par conséquent, ici, c'est une manière de suggérer aussi la divinité de Jésus qui va naître de cette manière-là. Et c'est alors que Marie, verset 34, demande à l'ange « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et voilà, ici, nous avons un verset essentiel. Non pas, évidemment, à cause des conclusions qu'en tirent les catholiques, pour lesquelles Marie ici fait vœu de chasteté à vie. Ici, il est bien clair, d'après le contexte, que Marie simplement s'étonne, parce qu'elle est fiancée, certes, mais elle n'est pas encore mariée. Par conséquent, elle ne peut pas imaginer qu'elle puisse devenir enceinte, puisque précisément, elle n'est pas encore mariée. Et là, justement, se pose le fait de la naissance virginale. Jésus, comme le dira l'évangéliste Matthieu, fut conçu dans le sein de Marie avant que Marie et Joseph aient habité ensemble. Et toute la Bible est claire à ce sujet. Jésus n'est pas le fils de Joseph. Jamais il ne sera lui-même, ne revendiquera Joseph comme son père. Par contre, celui qui l'appellera son père, c'est Dieu. Il est vrai que son entourage le considère comme le fils de Joseph. À Nazareth, par exemple, on dit de lui, quand il revient, « N'est-ce pas là le fils de Marie et de Joseph ? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ?» Mais il est certain que le fait que Marie était vierge au moment où Jésus a été conçu fait que Joseph, ni aucun autre père humain, n'était à l'origine de cette conception-là. Et ça, c'est une doctrine essentielle pour le christianisme. Car si Jésus est le fils de Joseph, alors il n'est plus le fils de Dieu. Alors il n'est plus Dieu. Et de fil en aiguille, il ne peut plus nous sauver, etc. La foi dans la naissance virginale est la pierre de touche de la véritable foi du véritable christianisme. Le miracle de la naissance virginale est un miracle aussi important que le miracle de la résurrection. Les deux miracles sont étroitement liés, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans le texte de Paul aux Romains. Proclamé fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. C'est la résurrection d'entre les morts qui met en évidence, qui confirme a posteriori le miracle de la naissance virginale, de la naissance miraculeuse. Parce qu'il est bien évident que pour les hommes et les femmes de l'entourage de Jésus, la naissance de Jésus n'est rien de miraculeux. Et Joseph lui-même était troublé quand il a appris la grossesse de Marie, s'imaginant qu'elle s'était mal conduite, jusqu'au moment où un ange lui est apparu pour lui dire ce qu'il en était en fait. Il existe dans la tradition juive, qui a suivi le christianisme, un ouvrage polémique et blasphématoire que l'on appelle le Toldot Yeshu, l'histoire de Jésus. D'ailleurs, on n'emploie pas dans ce texte le mot Yeshua, qui est le véritable nom de Jésus en hébreu, mais Yeshu, qui est un anagramme d'une phrase qui signifie que son nom soit retranché. Et jusqu'à aujourd'hui, en hébreu, les juifs refusent d'employer l'expression Yeshua pour parler de Jésus. Les messianiques se battent dur, d'ailleurs, pour qu'on emploie ce mot-là. Ils continuent à employer le mot Yeshu, qui est un mot blasphématoire, qui est une expression blasphématoire, qui signifie que son nom soit retranché. Et ce Toldot Yeshu explique ainsi les origines de Jésus, disant que sa mère est devenue la maîtresse d'un soldat romain qui s'appelait Panthère. Et Panthère, on voit tout de suite en grec, n'est-ce pas, la transposition, puisque Jésus est né de la Vierge Marie, et Vierge en grec se dit Parthénos. Alors, l'ouvrage blasphématoire et polémique juif a donné au soi-disant père de Jésus, légionnaire romain, n'est-ce pas, le nom, en quelque sorte, qui était celui de la Vierge Marie. Et nous voyons ici ce que plus tard, n'est-ce pas, les adversaires de Jésus lui lâcheront en pleine figure à plusieurs reprises, quand ils lui diront « Nous avons un seul père, Dieu », alors que Jésus les accuse d'avoir pour père le diable, de faire les œuvres de leur père, ils disent « Nous avons un seul père », en l'évangile de Jean. Et nous ne sommes pas, nous, des enfants illégitimes. C'est une accusation déguisée de dire « Toi, tu es un enfant illégitime. » Parce que tu as été conçu hors mariage. Et il y a en hébreu une expression pour cela. C'est « mamzer »,« mamzerut ». C'est en même temps quelqu'un qui est déprivé d'un certain nombre de droits sur le plan religieux. Le mamzer, on trouve ça dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Torah, ne peut pas entrer dans le temple comme un autre adorateur, etc. Et c'est pourquoi, si Jésus avait eu un père humain, quand bien même ce père humain aurait-il été Joseph, dans la mesure où Marie et Joseph n'étaient pas encore officiellement mariés, eh bien, Jésus aurait été, par rapport à la loi juive, déprivé d'un certain nombre de droits. Il n'aurait pas pu être ce grand prêtre selon la manière de Melchizedek dont il est question ici. Et c'est pourquoi, encore une fois ici, la naissance virginale est vraiment la pierre de touche de la vraie foi. Maintenant, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès dans lequel tombent les catholiques et penser que, à partir de là, Marie n'a plus d'autres enfants, qu'elle n'a jamais eu de relation normale avec son mari, etc., et qu'il y a en plus de ça cette histoire de l'immaculée conception et toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir. Ça veut tout simplement dire qu'au moment où Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie de la puissance du Saint-Esprit, Marie était vierge. Ce qui s'est passé après, c'est autre chose. Et à ce moment-là, elle était vierge. Donc, la naissance de Jésus est manifestement une naissance miraculeuse qui, ici, est donnée à l'action du Saint-Esprit. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Et non pas, comme veulent nous faire croire les catholiques, puisque j'ai décidé de ne pas connaître d'homme, non, ça n'a rien à voir, puisque pour le moment, je ne connais pas d'homme. Alors la réponse de l'ange est celle-ci. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et là, ici, il y a une allusion qui est faite, n'est-ce pas, à un ensemble de choses de l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu viendra sur toi, bon, ça c'est clair, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. La puissance, nous avons vu ce que c'était, la Gvoura. Ici, il y a un rappel de cette histoire d'Israël, en quelque sorte, et qui renvoie justement à toute cette histoire. Et c'est pourquoi, nous est-il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Parce que justement, c'est le Saint-Esprit qui va le concevoir. Parce que justement, tu vas être couvert par la puissance du Très-Haut, l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Pas saint, par exemple, comme l'ont été les prophètes, comme l'ont été les grands hommes de l'Ancien Testament, mais saint d'une sainteté particulière. Saint avec un S majuscule, une sainteté que jamais aucun être humain n'a possédée avant lui. Et à cause de cela, cette sainteté qui sera la sienne, ce caractère unique qui sera le sien, fera qu'il sera appelé fils de Dieu. Puis ensuite, nous retrouvons cette même gloire au moment où les bergers sont dans les champs. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est cette même nuée, c'est cette même gloire qui se manifeste aussi sur eux. Et enfin, Siméon lui-même, quand il recevra Jésus dans ses bras, parlera de lui comme la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton peuple. C'est une allusion à toute cette nuée, à toute la théophanie en quelque sorte, qui s'est manifestée en Israël autrefois. La théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu. Ce qui se passe ici, c'est rien moins qu'une théophanie, qu'une manifestation de Dieu, une apparition de Dieu au milieu des hommes. Et à plusieurs reprises, dans la vie, dans le ministère de Jésus, il y aura de semblables théophanies, c'est-à-dire des moments où la divinité de Jésus transparaîtra sous son humanité. Comme si soudain, la carapace humaine dans laquelle la divinité de Jésus était cachée, voilée, soudain va être comme déchirée. Et un instant, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, la gloire qui est en lui, va apparaître. C'est le cas au baptême. Lorsque l'Esprit Saint descend sur lui, que la voix se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. » C'est vrai surtout lors de la transfiguration, quand ses vêtements deviennent blancs comme de la neige, et que les disciples sont effrayés, et on retrouve la nuée. Une nuée le couvre, avec les deux personnages mystérieux, Élie et Moïse, qui sont venus s'entretenir avec lui, et Jésus retrouve son apparence humaine. Puis lors de la résurrection, c'est le même Jésus. Il a un corps comme il avait auparavant, mais en même temps il a des capacités extraordinaires. Il a quelque chose de miraculeux, de divin, ils ne le reconnaissent pas dans un premier temps. Et puis enfin l'ascension, lorsque la nuée le couvre et le voile à leurs yeux définitivement, jusqu'au moment où il reviendra à la fin. Ensuite, il y a un véritable dévoilement de ce qui est ainsi, qui va être caché. La gloire, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Ça veut dire que ça va rester un miracle discret. Ça veut dire que ce ne sera pas quelque chose qui sera manifeste comme ça. Mais par contre, il y a un signe qui va lui être donné. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui a appelé stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et là, c'est un signe. L'incarnation de Jésus est un signe de la fin, un signe des derniers temps. Un signe que nous sommes entrés maintenant dans la période où Dieu accomplit ses promesses. Et c'est pourquoi, ainsi, Jésus est celui qui accomplit toutes les promesses qui ont été faites au Père. Il y a l'insistance sur le mot Très-Haut, le Dieu Très-Haut d'abord. En relation aussi avec Melchizedek dont nous avons parlé, qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et Israël est le Fils. Pardon, Jésus est le Fils, comme Israël était le Fils. Le texte d'Osée, le texte aussi de l'Exode, Israël est mon Fils, mon premier-né. Ainsi parle le Seigneur au Pharaon, laisse aller mon Fils pour qu'il me serve. Et ainsi, eh bien, le miracle va pouvoir se produire. Maintenant, Luc est très attentif aussi à nous faire bien comprendre la nature de ce miracle. Nous n'avons pas ici affaire à une théogamie. Ça veut dire un mariage entre un dieu et un être humain, une femme. Les mythologies anciennes, qu'elles soient babyloniennes, qu'elles soient grecques, ont souvent imaginer de semblables choses. Et pour reprendre la mythologie grecque, par exemple, reprend toutes les aventures sentimentales de Jupiter avec des mortels, par exemple, pour avoir des cas nombreux de théogamie. Mais là, c'était tout simplement de la placer, si vous voulez, dans l'imagination des Grecs, n'est-ce pas, les désordres moraux qui sont ceux des êtres humains qui étaient appliqués à leur dieu. Leur dieu n'était guère meilleur que les hommes. Ce qui était d'ailleurs assez inquiétant, mais enfin, apparemment les Grecs ne s'en inquiétaient pas beaucoup. Bon. Les Babyloniens avaient la même doctrine, par exemple, une fois par an, il y avait le mariage royal, le roi, n'est-ce pas, avait des relations avec la grande prêtresse du temple. C'était en quelque sorte comme si il entrait dans une espèce de mariage royal, etc. Bon, ici, ça n'a rien à voir. Parce que, et là, c'est une réponse qu'il faut savoir, notamment pour les musulmans, parce que les musulmans accusent les chrétiens, par justement la doctrine de l'incarnation, de faire en sorte que ce soit une théogamie, n'est-ce pas ? Comme si Dieu avait eu des relations sexuelles avec une femme. Mais ici, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Or, en hébreu comme en grec, le Saint-Esprit, c'est féminin. Genre féminin. Donc ça exclut, ici, toute possibilité de théogamie. Et comment cela peut-il se faire ? Par un miracle, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est uniquement le Saint-Esprit. C'est pas Dieu qui intervient, c'est le Saint-Esprit. Donc tout est spirituel, il n'y a rien d'humain, il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de physique dans cette affaire. Tout appartient au domaine des choses d'en haut. Ce que l'apôtre Paul, encore une fois, définit par un véritable acte de création nouvelle de Dieu. Jésus est le prototype d'une création nouvelle, il est le second Adam. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Le point de départ, le commencement de la nouvelle création de Dieu. Alors attention, il faut aussi comprendre le mot création. Non pas comme quelque chose, une création du néant, car encore une fois, Jésus préexistait avant son incarnation, comme nous l'avons dit tout à l'heure en insistant beaucoup, mais dans ce sens que l'acte de l'incarnation, l'acte par lequel, comme dira l'Épître aux Hébreux citant le psaume, « Tu m'as formé un corps », eh bien, est un acte semblable à celui de la création d'Adam, en ce qui concerne la création du corps de Jésus. Car si Jésus existait avant son incarnation, il n'existait pas sous forme corporelle. C'est dans l'incarnation qu'il prend un corps. Tu m'as formé un corps. Autre élément intéressant aussi dans tout ce récit de Luc, c'est la visite de Marie à Élisabeth. Et notamment, Élisabeth qui est enceinte dans son sixième mois, au moment où Marie la visite. Et lorsque Marie se trouve dans la présence d'Élisabeth, l'enfant, donc Jean-Baptiste, bondit de joie dans son sein, dans la présence de Jésus. Et Élisabeth s'écrie : « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Donc, Élisabeth, inspirée par le Saint-Esprit, appelle déjà l'enfant à naître, qui déjà, à cette époque-là, est conçu dans le sein de Marie, mon Seigneur. Et la présence de cet enfant à naître provoque une telle joie dans le cœur de l'enfant que porte Élisabeth, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, que ce dernier bondit de joie dans son sein. Autre élément aussi sur lequel Luc insiste, c'est au moment de la présentation au temple. Qui accomplit la prophétie de Malachie, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Or, depuis Malachie, justement, dernier prophète de l'Ancien Testament, il y avait cette idée en Israël que la voix prophétique s'était tue. L'Esprit Saint s'était retiré d'Israël. Et l'Esprit Saint ne serait répandu sur Israël qu'au moment de la venue du Messie, au moment où le Messie entrerait dans son temple, alors à nouveau, l'Esprit Saint viendrait sur Israël. Et ce serait le signe de la fin. Et que voyons-nous au moment où Jésus entre dans le temple? Enfant? Bébé? Eh bien, l'Esprit Saint va agir sur, en quelque sorte, des prophètes qui vont se trouver là. Ce vieillard Siméon qui va prophétiser poussé par l'Esprit. Puis ensuite Anne, qui elle aussi va annoncer ce qui le concernait. C'est-à-dire que là, à nouveau, le Saint-Esprit est à l'œuvre. En quelque sorte, Jésus, conçu du Saint-Esprit, irradie la puissance du Saint-Esprit, même alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Et il fait en sorte que la gloire de Dieu revient en Israël à partir du moment où il est présenté dans le temple. À nouveau, le Saint-Esprit va agir dans ce temple où, depuis Malachie, aucune voix prophétique ne s'était plus faite entendre. Et puis, en même temps, Jésus accomplit la Torah. Ses parents viennent accomplir sur lui ce qu'ordonnait la Torah. Jésus, serviteur de la circoncision. Et au moment où il vient pour accomplir la Torah, le Saint-Esprit descend sur les prophètes. Jésus accomplit en lui la loi et les prophètes. Ça, il y a les deux réalités qui se trouvent unies en lui. Et en même temps, il y a une identification de Jésus à Israël. Jésus est la fine fleur d'Israël. Et c'est pourquoi il est le Fils, comme Israël autrefois était le Fils. Et il est destiné, justement, à sauver son peuple de ses péchés, dit l'ange à Joseph. Son peuple, c'est le peuple d'Israël. Mais Siméon, inspiré par l'Esprit, prévoit déjà que le salut ne s'arrêtera pas à Israël. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Dernier épisode de l'évangile de l'enfance que nous trouvons chez Luc, c'est l'épisode de Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Et cet épisode aussi est extrêmement intéressant. Parce qu'il nous montre la conscience qu'avait Jésus de ce qu'il était. Bon, vous connaissez l'épisode, inutile d'y revenir. Jésus qui monte au temple avec ses parents pour un des grands pèlerinages qui devait être accompli tous les ans. Bon, on a remarqué souvent que 12 ans, c'était aussi un âge important en tradition juive. 12-13 ans, c'était l'âge de la bar mitzvah, de la majorité religieuse. Il est clair que Jésus se sent à l'aise dans le temple. Jésus se sent dans la maison de son père. Il est chez lui, il se sent chez lui. Et lorsque ses parents viennent le récupérer beaucoup plus tard, après l'avoir cherché partout, il aura ce mot: « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Je comprends que ses parents étaient un petit peu déroutés par cette réponse-là. D'autant que Marie lui dit « Ton père et moi, nous te cherchions. » Son esprit, le père, c'était Joseph. Elle savait bien, Marie, ce n'était pas Joseph. Enfin, bien sûr, pour tout le monde, c'était Joseph le père. Et d'une certaine manière, Joseph lui avait donné son identité à l'état civil. Il était le fils de Joseph pour l'état civil de l'époque. Mais Jésus leur parle, lui, d'un autre père. Et l'étonnement de Marie venait certainement du fait que je ne crois pas qu'elle avait encore parlé avec son fils de ce qui s'était passé. Ces choses qu'elle avait gardées dans son cœur. D'où cela lui était-il venu? Par une révélation de Dieu, par une révélation du Père. N'est-ce pas là le fils du charpentier dont nous connaissons le Père? Jésus pouvait dire, à cela je suis descendu du ciel. Alors nous sommes ici évidemment devant un mystère. Il n'est pas étonnant que Paul dira plus tard, parlant de l'Évangile, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais il est clair que le fait de la naissance virginale est attesté dans toute l'Écriture. Jésus ne cessera de revendiquer cette paternité céleste dans ce lien unique qui l'unit à Dieu, mon Père. Que ce soit lorsqu'il parle de lui aux autres, que ce soit quand il s'adresse à lui en lui disant mon Père. Et il n'est pas étonnant que la doctrine de la naissance virginale ait été une des doctrines les plus attaquées de tous les temps par les différentes hérésies qui ont marqué l'histoire de l'Église. Bon, citons deux de ces hérésies principales, trois même. L'adoptionnisme dont nous avons parlé la dernière fois. Selon cette hérésie, Jésus était un simple homme, le fils de Joseph, le fils de X ou Y, peu importe. Et à cause de sa conduite exceptionnelle, Dieu l'a adopté et en a fait le fils de Dieu, d'une manière unique. Nous avons déjà réfuté cette doctrine la dernière fois, je crois qu'il est inutile d'y revenir. Il est certain que si Jésus n'avait été qu'un simple homme, il aurait été pécheur comme n'importe lequel d'entre nous. Car le fait essentiel de la naissance virginale, c'est que Jésus a été préservé du péché originel. Il était saint, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il avait une chair semblable à la nôtre, il était semblable aux hommes, sauf en ce qui concerne le péché. Jésus pouvait-il pécher? Il a été tenté. Donc s'il a été tenté, c'est qu'il pouvait pécher. Mais il y a une différence essentielle entre la tentation telle que Jésus l'a connue et la tentation telle que nous la connaissons nous. La tentation de Jésus était toujours une tentation qui était extérieure à lui. Tandis que la tentation, lorsqu'elle nous attaque, eh bien c'est une tentation qui nous est extérieure, mais qui bien souvent nous est aussi intérieure. Ça veut dire qu'en nous, dans la chair, notre chair qui est atteinte par le péché, il y a quelque chose qui se fait complice de la tentation. C'est comme si vous voulez, une ville était assiégée, puis qu'en même temps, il y avait dans la place des complices de l'ennemi qui est à l'extérieur. Voilà notre situation. Et c'est pourquoi nous sommes souvent sans force devant la tentation, parce que nous avons une volonté divisée en face de la tentation. Paul l'a très bien exprimé dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Je m'affectionne à la loi de Dieu dans mon esprit, mais je sens en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend esclave de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui acquiesce à la tentation, qui acquiesce au péché, qui va au-devant de la tentation. Et lorsque une tentation extérieure vient en face de cet ennemi, il y a complicité entre les deux. Jésus a connu la tentation. Il a été tenté en toutes choses, il a connu toutes les tentations que nous pouvons connaître, dit l'apôtre Paul, dans tous les domaines. Entre parenthèses, l'Épître aux Hébreux ajoute, c'est pourquoi il peut aussi soutenir ceux qui sont tentés parce qu'il sait ce que c'est. Mais la volonté de Jésus était une en face de la tentation, c'était ça la grande différence. Ça veut dire que Jésus pouvait de tout son être dire non à la tentation, sans qu'il y ait en lui quelque chose qui soit complice avec cette tentation au-dedans de lui-même. Et ça, c'était le résultat, justement, de la naissance virginale. C'est parce que, justement, il n'avait pas été atteint par la tendance à pécher que nous héritons tous les uns les autres de nos premiers parents, d'Adam et d'Ève. Et cette réalité fait que l'enfant qui naît, et qui n'est pas pécheur, contrairement à ce qu'affirme la doctrine catholique du péché originel, mais cet enfant qui n'est pas pécheur aussi longtemps qu'il n'a pas commis le péché, nous pouvons dire, sans le risque de nous tromper en quoi que ce soit, cet enfant il n'est pas pécheur, mais il péchera. Tôt ou tard, il péchera. Et plutôt tôt que tard, il péchera. Parce qu'il y a la puissance du péché qui est en lui. Parce qu'il a hérité de ses parents une chair de péché, dira l'apôtre Paul. Jésus n'a pas hérité de ses parents une chair de péché. Parce que Marie n'a été en quelque sorte que le réceptacle humain. mais il a hérité d'elle une chair semblable à celle du péché. Semblable. Semblable seulement. Et ça, c'est la différence. Et c'est pourquoi l'adoptionnisme est une hérésie grave. Une autre hérésie, c'est l'hérésie qui prétend, comme j'ai l'occasion de le voir, le nom m'échappe, le docétisme, ça me revient. Hérésie docète, qui affirme que il y avait en quelque sorte deux êtres en Jésus. Il y avait un homme semblable à tous les hommes, et que au moment du baptême de Jésus, un deuxième être est venu en lui, le Christ. Et que c'est, en quelque sorte, le corps de Jésus n'était que le support de l'action de ce deuxième être divin qui était le Christ. Et qu'au moment de la mort de Jésus, ce Christ est remonté vers Dieu, ce qui était l'essence divine, et que l'homme Jésus seulement a été crucifié, voire même qu'il a été carrément, certains autres qui affirment qu'il a été carrément enlevé au ciel, et que un illustre inconnu a été crucifié à sa place. Cette hérésie a été reprise par l'islam, qui affirme dans le Coran, ils ne l'ont pas tué, n'est-ce pas ? Ils ne l'ont pas crucifié, et qui nie la mort de Jésus, reprenant tout simplement les hérésies docètes avec lesquelles Mohammed s'était trouvé en contact dans ses nombreux voyages. Bon, je crois qu'il est tout à fait inutile de réfuter cette hérésie, contre laquelle tous les textes, évidemment, se liguent pour en montrer la vanité, l'erreur. Par contre, plus subtil est l'hérésie moderne, qui est celle du rationalisme. Et nombreux sont les pasteurs aujourd'hui, notamment dans les grandes églises historiques, réformées, luthériennes et autres, anglicanes, chez de nombreux théologiens, qui nient la naissance miraculeuse de Jésus. Et pour lesquels Jésus, en fin de compte, n'est rien qu'un homme. Alors, c'est pourquoi il faut ici souligner très fort, je reviens encore là-dessus, parce que je crois que c'est essentiel, la réalité profonde, n'est-ce pas, de la naissance virginale et l'importance de cette doctrine. C'est une pierre angulaire de toute la christologie. Si l'on touche à cette pierre, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Il n'y a plus de divinité de Jésus. Il n'y a plus de résurrection. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que ceux qui nient la naissance virginale sont les mêmes qui nient ensuite la résurrection. Ça y conduit tout droit. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus d'ascension. Il n'y a plus de retour de Jésus. Il n'y a plus de salut, de mort expiatoire. Il n'y a plus que l'effort que peuvent faire les hommes pour imiter Jésus, n'est-ce pas ? Jésus, l'exemple, n'est-ce pas, qu'il faut suivre. Alors, toutes les théologies modernes sont basées sur cette hérésie-là. Citons pêle-mêle l'hérésie de Bultmann, qui fait des ravages terribles aujourd'hui, pour lesquels la foi dans la naissance virginale était la foi de l'Église primitive qui avait inventé ça comme ça. Franchement, pourquoi aurait-il inventé ça? C'était, comme le dit l'apôtre Paul, difficile à faire passer. Folie pour les païens et scandale pour les juifs. Ça aurait été plus facile de dire Jésus était un homme comme les autres. S'ils l'ont affirmé, justement, contre toute logique, c'est parce que, justement, c'était vrai. Tous les théologiens modernes, eh bien, sont tombés dans cette erreur-là. Et en même temps, ça a des conséquences aussi sur le niveau de l'Église. si l'Église est dans la décrépitude que l'on voit aujourd'hui, les églises historiques, eh bien, c'est aussi parce que on professe ce genre de choses. Car si vraiment Jésus n'est qu'un bon exemple parmi d'autres, ma foi, pourquoi Jésus plus que Confucius? Pourquoi Jésus plus que Gandhi? Pourquoi Jésus plus que Mao Tse-tung ou Che Guevara? Comme avait l'impudence d'affirmer un jour un théologien, n'est-ce pas? Jésus n'est rien de plus pour moi que Che Guevara. Quelqu'un a dit ça. Alors vous comprenez qu'après ça, il ne faut pas s'étonner de voir les églises historiques là où elles en sont. Jésus disait, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors, voilà, c'est encore une fois une pierre de touche de la vraie foi. La naissance virginale est un des faits historiques les mieux attestés de tout le Nouveau Testament. Jésus l'a affirmé. Les apôtres l'ont affirmé. Paul l'a affirmé. L'Église primitive l'a affirmé. Les conciles, quand nous faisons l'histoire de l'Église, nous le voyons, l'ont réaffirmé avec force. Et quand on enlève ça, eh bien, il ne reste plus qu'à déchirer la Bible. Le christianisme n'est plus rien. Le christianisme s'autodétruit. Encore une fois, la résurrection de Jésus proclame avec puissance la réalité de la naissance virginale, et Jésus est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, eh bien, il est aussi le Fils de Dieu. Voilà, est-ce que vous avez rapidement une ou deux questions à poser ?